Herzlich willkommen im Namen des Herrn. Wir haben herrliche Lieder gehört und das passende Wort dazu ist in Sacharja 10, Vers 1 zu finden. Sacharja 10, Vers 1. Bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens.
Dans Zacharie 10, le verset 1, nous avons chanté déjà le cantique merveilleux, et cela nous fait penser à ce passage ici, de Zacharie 10, le verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et vous enverra une abondante pluie, donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Nous voulons chanter des cantiques. Le cantique numéro 15. Je suis racheté. Chantez-le de tout votre cœur, par reconnaissance. Numéro 15. Ô merveilleux. Nous disons Amen à ça. Amen. Nous sommes encore dans la vallée des larmes. Nous attendons encore la transformation de notre corps. Mais comme souvent nous l'avons dit, comme première chose, notre intérieur doit être transformé. Un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle vie. Et si cela a eu lieu avec nous dans sa réalité, alors la transformation extérieure du corps aussi aura lieu. Avant que le frère Daniel nous lise une parole courte comme introduction et prie avec nous. Je voudrais remettre des salutations, frères et sœurs, Olviti, remettre des salutations. Ensuite, nous avons des salutations de la Roumanie. Il y avait 100, il y avait plus de 180 personnes branchées online en différents endroits pour écouter. Et ils ont dit que la transmission n'a pas bien fonctionné hier, mais l'annonce joyeuse est qu'en avril, maintenant en avril, nous allons recevoir un des nouveaux câbles de la télécom allemande, de manière que nous aurons une capacité quatre fois meilleure que nous avons maintenant. Et Dieu a aussi pris soin et a accordé sa grâce. Nous sommes simplement reconnaissants pour tout. Au temps convenable, cela arrive tel que Dieu veut l'avoir. Bon, chantons un chœur. Demandons ensuite au frère Daniel de venir et de nous saluer. Et nous nous réjouissons de ce que particulièrement beaucoup de la Roumanie et aussi de la Slovaquie pouvaient venir. Et bien sûr, de loin et de près, nous vous remettons à tous les salutations. Et soyez les bienvenus, que Dieu le Seigneur puisse nous bénir aujourd'hui. J'espère que cela ne sera pas long comme hier, que cela soit court et fort, car la parole du Seigneur peut aussi être efficace. Chantons un chœur qui en propose un. Dieu est encore à l'œuvre. Ensuite, demandons au frère Daniel de venir, qui traduit, qui vient devant.
Loué soit le nom du Seigneur. C'est une grâce d'être ici ce matin à cet endroit, un endroit où Dieu bénit, un endroit où nous pouvons voir les biens parfaits, mais magnifiques du Seigneur notre Dieu manifestés. Et que sa parole dans notre vie soit confirmée. Je voudrais remettre la salutation de nos frères et sœurs de la Roumanie. Comme nous l'avons entendu, ils sont en liaison directe par la transmission Internet et ils sont très heureux tous. Ils sont heureux et reconnaissants aussi d'être nourris spirituellement de cette manière. Je vais lire une parole courte dans 2 Pierre, chapitre 1. C'est ainsi que cette promesse en nous, cette promesse merveilleuse de Dieu s'accomplit, et elle est écrite ici, que c'est ainsi que nous avons part à la nature divine, à partir du verset 2. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc 2 Pierre, la deuxième épître de Pierre au chapitre 1, à partir du verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur.
Dumnezească lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui.
Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété et au moyen de la connaissance
et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu.
Ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă.
Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Tel que nous l'avons aussi entendu hier, une conversion est nécessaire, une nouvelle naissance est nécessaire, une régénération est nécessaire pour que nous puissions ainsi participer à la nature divine, pour que Dieu puisse nous révéler, manifester son plan. C'est déjà la parole de Zacharie 10 qui a été lue. Il est écrit « Demandez au Seigneur ». Nous devons savoir ce que nous devons demander. Et que cela, et c'est le Seigneur qui nous le montre. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1, ici, il est parlé de la promesse du Père. Comment est-ce que le Seigneur le dit? Vous l'avez appris de moi. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 2, il y a un verset biblique qui décrit que cette parole est devenue aussi une réalité. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, au verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Dans tous les temps, tous ceux qui étaient croyants à la parole de Dieu pouvaient voir, pouvaient entendre, pouvaient toucher les choses que Dieu avait fait parmi eux. Dieu nous a accordé des promesses merveilleuses pour ce temps et nous voulons tous expérimenter dans leur réalité ces promesses. Nous devons nous réjouir de ces choses, de ce que c'est une grande grâce que nous avons reçue de cette manière de la part de Dieu, et que nous pouvons être dans un endroit où Dieu achève son œuvre. Et ici, nous pouvons voir, nous pouvons aussi le voir dans son accomplissement. Ça, nous pouvons aussi le toucher de nos mains. Et à ces choses, on peut en être aussi témoin. Comme hier aussi aujourd'hui, que Dieu puisse confirmer sa parole. Que Dieu puisse agir dans nos cœurs à tous. Et la parole que nous écoutons, qu'elle puisse devenir une réalité à nous. Que Dieu puisse vous bénir tous. Amen. Frère Schmitt, tu veux prier? Nous voulons prier. Ô grand Dieu, nous venons à toi. Dans cette heure, nous te remercions de tout notre cœur pour toutes tes grâces et tes fidélités que tu nous as prouvées. Dieu du ciel, déjà par ta parole, tu nous prépares, ô Dieu au ciel, tel que cela a été présenté, toi qui as déversé ton esprit sur toute chair, ô Seigneur, ainsi nous te demandons que tu puisses venir parmi nous. Mais ça ne suffit pas que tu puisses venir dans notre cœur. Prends la première place dans notre cœur, dans notre vie, dans notre marche et dans nos actions. Prends la première place pour que nous puissions te louer et t'honorer, mon Dieu et mon Seigneur. Je te remercie dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous attendons, comme déjà dit, tu nous as accordé ta parole hier. Tu nous as montré ce qui est important pour notre préparation. Ainsi, accorde-nous ta grâce, pas de nous-mêmes, mais Seigneur, par ta puissance, par ton Saint-Esprit, pour que nous puissions nous tenir à ta disposition et que aujourd'hui tu puisses parler encore avec nous et accorder à chacun individuellement ce dont il a besoin, toucher et parler à chacun, que ce ne soit pas nos propres pensées que nous ayons et que nous suivions, mais comme tu l'as dit toi-même dans ta prière dans le jardin de Gethsémané, pas ce que je veux, mais que ce que tu veux ait lieu, ainsi que dans et que parmi nous, ce soit ta volonté qui ait lieu pour l'honneur de ton nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons écouter deux cantiques. Hier, j'ai demandé au frère Jean Lambert de nous chanter au moins deux strophes de ce nouveau cantique en français. La prochaine fois, nous allons le chanter tous. Alors, nous avons notre bien-aimé frère Harry Schmidt, qui est aussi avec sa femme, qui nous chantera un cantique. Venez maintenant devant. Harry Schmidt, où es-tu? Viens avec ta femme. Frère Jean Lambert, pendant ce temps, tu peux aussi venir. La traduction, arrêtez et venir. Venez et chantez-nous un cantique, même si c'est deux ou trois strophes. En temps, je voudrais encore rappeler Exode, chapitre 20, verset 24, la deuxième partie du verset 24. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Croyez-le, il viendra et il bénira.
Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want Thee forever to live in my soul. Break down every idol, cast out every foe. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, let nothing unholy remain. Apply Thine own blood and extract every stain. To get this blessed cleansing, I all things forego. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, for this I most humbly entreat. I wait, blessed Lord, at Thy crucified feet. By faith for my cleansing, I see Thy blood flow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. The blessing by faith I receive from above. O glory, my soul is made perfect in love. My prayer has prevailed, and this moment I know the blood is applied. I am whiter than snow, whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow.
Ça aurait été bien si nous avions chanté le chœur en France, en allemand. Plus blanc que la neige, plus blanc que la neige, lave-moi, ô Sauveur, ainsi je serai plus blanc que la neige. Où est notre frère Jean Lambert? Je le sers particulièrement dans mon cœur. Je l'ai dit déjà en cet endroit, son papa était ambassadeur à Bonn, ambassadeur du pays, de son pays. J'étais à l'époque invité et il était un très jeune homme à l'époque. Et le Seigneur a touché son cœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
La Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir? Car l'esprit n'est donné avec la joie, la paix. Car celui qui veut croire, obéit. Croire, obéit. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. À ses ordres soumis, sans aucun compromis, alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement, il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Oh, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir.
Amen, amen. Merci beaucoup. C'est merveilleux simplement de ce que dans toutes les langues nous pouvons chanter au Seigneur et nous espérons réellement que tous les frères et les sœurs dont leurs langues ne sont pas incluses dans le culte, que malgré tout ils puissent prendre part à tout. Vous savez que du balcon, il est traduit en 12 langues et tous ceux qui sont présents ont la bénédiction par les différentes langues sans considérer dans quelle langue Dieu parle avec chacun. Nous avons des appels de Nairobi, de l'Australie, tout un nombre d'appels de Kinshasa, des frères se sont réjouis de ce que, malgré tout, quoique c'était en partie, la transmission a pu malgré tout avoir lieu. Bien, mes frères et sœurs, encore une fois, soyez la bienvenue, soyez les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur. Il y a une feuille ici, devant moi, on m'a demandé est-ce qu'aujourd'hui un baptême aura lieu. Nous avons à cet endroit réellement toujours la possibilité de baptiser et nous nous réjouissons quand des frères et des sœurs sont prêts à marcher le chemin de l'obéissance, le chemin de la foi. Et je me suis noté une phrase. Cela servira. Cela aura servi à quelque chose. De croire, d'avoir cru comme l'a dit les Écritures. À cela, je veux lire la parole de Moïse, de Genèse, le chapitre 15, Genèse, chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Le verset 6. Abraham crut l'Éternel qui le lui imputa à justice. Dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu par les promesses que Dieu a données. C'est ainsi que nous avons part à la nature divine, parce que la parole de Dieu en elle a la nature divine, les paroles d'homme, ainsi on transmet aussi la nature de l'homme. C'est ainsi que la parole de Dieu est esprit et vie et transmet la nature de Dieu. Le surnaturel est dans la parole de Dieu et dans chaque parole il y a une semence. La parole est la semence et le germe de vie qui est dans la semence ainsi est manifesté. Bien-aimés frères et sœurs, cela aura servi à quelque chose d'avoir cru les promesses pour cette époque dans laquelle nous vivons. Cela aura servi à quelque chose d'avoir pris notre position pour la vérité et dans la vérité. Cela aura servi à quelque chose d'avoir nager contre le courant. Cela aura servi à quelque chose de ne pas avoir voulu chercher la faveur des hommes, mais d'avoir cherché la faveur de Dieu. Et le noyau de la prédication de hier doit être celui-ci. Que Dieu est dans sa parole et que si la parole est en nous et que nous sommes dans la parole, alors Jean 15 trouve son accomplissement. Moi, je suis le cep et vous êtes les sarments. Chaque sarment apporte la vie du cep et chaque sa main porte le fruit du cep. Et ainsi, c'est le serment qui rend visible la vie qui est dans le cep, qui, comme fruit, est visible, devient visible. Notre Seigneur a dit autrefois, vous ne pouvez pas cueillir, n'est-ce pas, des raisins parmi les épines. On reconnaît chacun par ses fruits. Et un bon arbre porte des bons fruits. Du bon arbre, il est écrit au singulier, celui qui a comme un arbre, au singulier, un arbre planté au bord des courants d'eau, dans les courants d'eau qui porte ses fruits en sa saison. Notre frère Branham a tenu toute une prédication sur l'arbre fructueux. Et il a tenu cela en rapport à l'Église. L'Église porte le fruit du Saint-Esprit. Tous les 9 fruits de l'Esprit sont manifestés dans l'Église, par l'Église. Et comme hier, nous avons insisté en disant que la même vie qui était dans le Rédempteur est dans les rachetés, la nature, les attributs de Dieu lui-même. Nous avons tiré ces comparaisons dans les Saintes Écritures. La première comparaison est tirée avec entre Caïn et Abel. Deux sortes de différences, deux sortes de semences. L'un pouvait haïr, l'autre a été haï. L'un a mis à mort, l'autre fut mis à mort. De la même manière, c'est entre Ismaël et Isaac. Isaac, un fils promis comme héritier, tel que Dieu lui avait dit, et Ismaël, un homme sauvage, sa main est contre tous et la main de tous sont contre lui. Donc, cela est encore répété dans Galates. Le chapitre 3 et dans Galates, le chapitre 4, particulièrement au verset 28 et 29, tel que celui qui a été engendré par de la chair a haï celui qui a été engendré de l'esprit. C'est ainsi encore maintenant. Pour le dire sincèrement, un vrai enfant de Dieu pourrait même s'efforcer à calomnier, à vouloir haïr. Il ne le pourra pas. Ça fonctionnera pas. Mais l'autre semence n'a pas besoin de s'efforcer. Elle le fait naturellement. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Encore aujourd'hui, c'est ainsi comme autrefois, les uns croient, comme le dit les Écritures, et sont la semence de Dieu, et les autres croient les interprétations. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas la semence de Dieu. Tout ce qui est de Dieu, né de Dieu, a vaincu le monde. Et notre foi, qui est selon les Écritures, c'est ça de croire comme la Bible dit, c'est ça qui a vaincu déjà le monde. Et toutes ces interprétations, je suis déjà convaincu de ce que l'Église, qui maintenant est appelée à sortir, qui doit nager contre le courant. Il y a quelqu'un qui disait, celui qui ne nage pas contre le courant n'a pas de vie. Il a même tiré une comparaison. Si tu vois un poisson comme ça, qui est emporté par le courant à la surface, c'est parce que ce poisson est mort. Et si tu regardais tous les poissons qui ont la vie, qui vivent, ils nagent dans l'eau et contre le courant. Ça a été le devoir et le privilège de tous les vrais croyants de nager contre le courant. Pourquoi? Parce que ils se sont mis du côté de Dieu. Et aussi cette comparaison, nous l'avons aussi tirée hier. D'être en accord. Cette harmonie divine et entre l'Ancien et le Nouveau Testament, du ministère, des ministères différents que Dieu avait accordés, et leur liaison avec l'histoire du salut, et même des ministères qui avaient caché en eux l'histoire du salut, pour que au temps convenable, cela soit manifesté. Que ce soit que c'était Noé, avec lequel Dieu avait fait une alliance et avait détendu dans le ciel l'arc en ciel, dans le ciel, visible pour tous, comme signe de reconnaissance de l'alliance, disant que je ne vais plus encore une fois par un déluge détruire la terre. Que c'était Abraham qui avait en fait aussi le signe extérieur en tant que circoncision, en tant que signe de l'alliance qu'il avait reçue. Et c'est ainsi que ce soit des étrangers ou bien des personnes qui appartenaient au troupeau des élus à l'église. La circoncision était d'une obligation divine et elle devait être appliquée et elle devait rappeler le péché original dans le jardin d'Éden. C'était pour en être rappelé, tel que Ève a dû naître avec douleur, comme notre Seigneur le disait. C'est ainsi que plus tard, cela fut aussi montré. En quoi est-ce que l'alliance avec Dieu fut brisée? C'est par un engendrement charnel. Et c'est ainsi que un engendrement de la chair. C'est ainsi que il nous est montré pourquoi est-ce que d'une manière nouvelle l'alliance a été rétablie avec nous. C'est-à-dire de la même manière par un engendrement, mais cette fois-ci spirituel, de l'esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et ce qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu, fils de Dieu. C'est pour cette raison que notre Seigneur, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, dit « Ce qui est né de la chair est chair ». Et ça aussi, je l'ai dit ici, dans les deux langues, dans la langue hébreuse et dans la langue grecque, il n'y a qu'une seule parole pour le mot « engendrer » ou « naître ». Une seule parole, un seul mot. Le même mot pour « engendrer » et « naître ». Que ça concerne l'homme. Si ça concerne l'homme, c'est l'engendrement. Si ça concerne la femme, c'est la naissance, naître. Et là aussi, nous ne voulons pas aujourd'hui et nous ne pouvons pas aujourd'hui entrer dans ces détails de ces choses. Mais c'est ainsi que nous savons les choses suivantes. Seulement ce qui est né de Dieu a la vie éternelle et a la nature divine, la nature de Dieu lui-même en eux. Ma phrase de choix pour aujourd'hui est la suivante. Cela aura servi à quelque chose. Cela aura servi à quelque chose d'avoir été calme devant Dieu, tranquille, de ne pas contredire et de ne pas résister, mais de recevoir avec douceur la parole de Dieu pour qu'elle nous soit révélée par Dieu lui-même. Ça, nous avons eu aussi à le dire en insistant. Le fondement de l'Église du Nouveau Testament était un acte de Dieu. Ce n'était pas Pierre qui a fondé l'Église, mais c'est Dieu lui-même par l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que tel que Jean-Baptiste avait son ministère et a dit « Je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu ». Et ensuite a suivi Luc 24, demeurez, restez à Jérusalem jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ensuite, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ensuite, nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, quand le temps fut accompli. C'est ainsi que cela est arrivé. Et Pierre, à qui la première question fut adressée, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Et il lui a donné la réponse, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Baptisé pour le pardon des péchés, pas pour recevoir le pardon des péchés. Nous l'avons déjà reçu par le sang de l'agneau. Mais pour croire et pour le pardon, on a besoin de la confirmation qui vient de nous pour que nous puissions exprimer que nous voulons faire l'alliance, une bonne conscience avec Dieu et confesser que nous sommes ainsi crucifiés avec Christ, morts avec lui, et que nous voulons, selon Romains, le chapitre 6, nous laisser ensevelir par le baptême dans sa mort avec lui pour avoir part à sa vie de résurrection, en marchant en nouveauté de vie. Celui qui ne se laisse pas baptiser bibliquement aura des problèmes, aura de grands problèmes et des difficultés. Et en relation avec cela, on peut dire que Dieu n'a pas regardé les temps de l'ignorance. Il n'a pas pris soin. Il est passé sur les temps d'ignorance. Et là où les gens n'avaient pas d'orientation directe d'en haut et étaient fondés sur de la connaissance, étaient dépendants de la connaissance. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dépendants de la connaissance, mais de la révélation. Mais tel que cela a été promis, ferme le livre jusqu'au temps de la fin, Daniel 12. Alors beaucoup sonderont, et c'est ainsi que la connaissance, par la révélation, par la grâce de Dieu, grandira. Et c'est ainsi que nous lisons, beaucoup seront séparés, blanchis et préparés. Cela et va ensemble. L'appel à sortir est lié à la séparation avec de tout ce qui ne vient pas de Dieu et est lié à la purification et à la sanctification du croyant pour que nous puissions devenir le temple de Dieu, la tente d'assignation de Dieu ici sur cette terre où le surnaturel peut et l'action de Dieu par la grâce de Dieu peut être manifestée. Oui, va être manifestée. Le Seigneur a dit à Abraham, ta récompense sera très grande. Pourquoi? Parce que tu as cru la promesse que je t'ai faite. Et la récompense de croire ce que Dieu nous promet, elle vient. Vous pouvez en faire confiance. Tel que Abraham a été récompensé, c'est ainsi que toute la descendance d'Abraham sera récompensée. Des personnes qui ont cru Dieu dans leur époque, qui n'ont pas regardé au naturel, aux choses visibles, qui n'ont pas regardé aux choses passagères, qui n'ont pas regardé à eux, à leurs femmes, comme à Abraham. Sarah était aussi âgée et vieille, et elle avait 90 ans, lui 100 ans. Quand la promesse s'est accomplie. Mais cela ne leur a pas intéressé. Dieu avait pris la responsabilité pour l'accomplissement de ce qu'il leur avait promis. Ça, c'est encore aujourd'hui exactement la même chose. La responsabilité n'est pas auprès d'un prophète. En ce qui concerne les promesses de Dieu, n'est pas auprès d'un apôtre ou bien d'un envoyé de Dieu. Les Écritures, la responsabilité d'accomplir les Écritures est en Dieu, et Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pourrions penser, demander, comprendre et attendre et demander. Et à cela appartient la parole de Matthieu, le chapitre 10, verset 40, pour nous qui avons dans ce temps ce grand privilège
d'écouter la parole prophétique, de croire et de la recevoir révélée. Et tous nous savons, tous les autres, eux, se remuent la tête, n'est-ce pas, de ce que nous sommes naïfs et croyons comme le disent les Écritures. Et de ne pas croire comme déjà on a toujours cru depuis des générations et des générations. Ce qui a été cru durant des générations est une chose. Et ce que Dieu, dans sa parole, a promis pour cette époque dans laquelle nous vivons est une affaire autre. Et c'est ainsi que nous ne nous dirigeons pas d'après ce que des églises et des églises libres ont fermement établi comme programme et comme confession et croyance. Pour nous, il s'agit, comme notre Seigneur lui-même disait, celui qui croit en moi, c'est vrai, mais comme le dit les Écritures. Et Dieu nous a transmis l'Ancien et le Nouveau Testament, et réellement, il a envoyé des apôtres et des prophètes pour nous prêcher tout son dessein du salut, tel que Pierre, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, l'a exposé en disant: je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Notre Seigneur, dans Matthieu, le chapitre 10, au verset 40 et 41, a dit quelque chose de très particulier concernant ceux qu'il envoie. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Quelque chose de très important. Ici, le choix nous est présenté, nous est montré. Celui qui vous reçoit, chacun peut se décider. Est-ce qu'il veut recevoir un serviteur de Dieu? Est-ce qu'il veut le rejeter? Est-ce qu'il le reçoit ou est-ce qu'il le rejette? De ceux qui le reçoivent, il est écrit ici encore, au verset 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Allons avec cela à cette parole merveilleuse dans Matthieu, le chapitre 23, Matthieu 23, verset 34. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville. Des vrais prophètes, des vrais envoyés du Seigneur sont toujours persécutés, lapidés, mis à mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont porté le message divin qui ne s'ajustait pas dans le programme des différentes époques, dans le programme religieux des différentes époques. Et parce que ce qu'ils prêchaient n'était pas reconnu, et parce que ce que le peuple n'acceptait pas ce qu'ils annonçaient, on ne les a pas reçus et acceptés. Mais ensuite, le Seigneur parle dans le même chapitre et au verset, dans Matthieu 23, au verset 37, il
là, il donne cet avertissement sérieux. Au verset 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Ce ne sont pas des évangélistes qui sont lapidés ou bien mis à mort ou bien ils ne sont pas rejetés. Non, ce ne sont pas des évangélistes. Les évangélistes sont, n'est-ce pas, glorifiés de tous et acceptés de tous. Jérusalem, Jérusalem. Église, Église. Église de Jésus-Christ. Qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois, ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Ils étaient liés dans les prescriptions des pharisiens et des docteurs de la loi. Le Seigneur lui avait apporté le message. Et de lui, il est écrit. Il était écrit. Il vint chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Et ensuite, il a envoyé des prophètes et des hommes de Dieu. Et ici, il se plaint et il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. La promesse du prophète Malachi, des derniers versets, voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, est réellement apporté en relation avec la fin des temps. Et c'est la promesse la plus importante pour l'Église de Jésus-Christ. Et si nous lisons exactement la parole du prophète Malachi, il est écrit, « Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, telle que pour tout Israël, je l'ai prescrit en Horeb. » Ici, dans Malachi, que ce soit le chapitre 3, verset 22 pour nous, ou dans d'autres chapitres. Donc pour nous en français, c'est, nous avons 4 chapitres dans Malachi. Donc c'est au verset 4. Malachi 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Moïse avait le devoir d'apporter la loi à tout Israël. Et dans tout le Nouveau Testament, les païens, les nations sont appelés sans la loi. Donc, sans la loi, le mot en allemand sans la loi veut dire en fait iniquité. Donc, était appelé sans la loi parce que Israël avait reçu la loi dans cet moment en tant que peuple élu. Et Dieu n'avait pas fait une alliance quelconque avec un peuple quelconque, mais avec son peuple qu'il avait appelé à sortir, le peuple d'Israël. Et cela nous ramène à Abraham, à Isaac, à Abraham, à Jacob qui croyait. C'est ainsi que il y a eu une transformation en Jacob, car son nom est appelé trompeur. Car il avait la relation avec le Seigneur. Il a combattu avec l'ange jusqu'à qu'il surmonte, jusqu'à que le ciel se soit levé pour lui et que le Seigneur lui parla et lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. C'est ainsi que Dieu, dans l'Ancien Testament, a choisi un peuple tout à fait naturel. Dans le Nouveau Testament, et ça c'est même l'annonce, où dans le dernier chapitre, dans Moïse, dans les livres de Moïse, Il est montré que Dieu bénira tous les peuples de la terre. Deutéronome, chapitre 33 et 34, cela est à lire, que Dieu bénira toutes les nations, même Israël, et sera rendu jalouse parce que Dieu aussi, de par les nations, appelle et choisit des hommes et les a purifiés et les a sanctifiés. Mais venons à notre sujet principal aujourd'hui. Cela aura servi à quelque chose. Pour moi, pour vous, pour nous tous. Cela aura servi à quelque chose d'avoir cru, comme le dit les Écritures, et de nous avoir mis aux côtés de Dieu. Je vous lis encore pour cela quelques versets bibliques pour vous représenter devant les yeux que la fidélité sera récompensée. Luc, chapitre 6. Luc, au chapitre 6. Lisons Luc, chapitre 6, à partir du verset 22. Luc, chapitre 6, verset 22. Bienheureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, lorsque les hommes vous chasseront de leur communauté, vous outrageront et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui est plus important? De rester dans la communauté des hommes, dans l'assemblée des hommes, ou alors d'être dans la communion avec Dieu? Qu'il puisse nous mettre dehors de toutes les églises libres et les dénominations, tant que nous sommes dehors, séparés de toutes ces choses, et demeurer dans l'église de Jésus-Christ. C'est ça qui est important, car il est dit ici, bienheureux êtes-vous. Dans le sermon sur la montagne, nous avons, n'est-ce pas, 9 béatitudes. Et ici, nous avons de nouveau une béatitude. Ici, il est dit, bienheureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Hein? Ça, nous l'avons déjà expérimenté. Et ça, nous l'avons aussi expérimenté avec beaucoup de douleur. Ensuite, cela continue. Lorsqu'on vous chassera. Qu'est-ce que moi j'ai à faire dans une communauté humaine, même si elle est décorée de manière très religieuse? Nous avons été appelés et séparés, mis à part, à demeurer dans la communion de l'esprit lié avec Dieu. En tant qu'église de Jésus-Christ, nous avons été appelés à sortir. Et cela pour un objectif bien précis qui demeure éternellement. Et ensuite, bien sûr, cela va ensemble ici que lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Ensuite, il est écrit à cause du Fils de l'homme. J'aurais jamais eu besoin de souffrir la persécution. Les choses seraient allées bien pour moi dans ma vie, mais à cause des élus, je suis encore prêt à porter plus de propre que jusqu'à aujourd'hui. Même donc, si tous nous atteignons le but et que ça accomplit ce que nous avons vu en janvier, dans les années 90, un troupeau à la fin des années 70, donc début 80, un troupeau, on a donc vu un troupeau qu'on ne peut compter, tout habillé en blanc, dans l'enlèvement. Bien mes frères et sœurs, le but qui est lié à la prédication actuelle est la préparation et la perfection de l'Église de Jésus-Christ notre Seigneur. Et ensuite, au verset 23, notre Seigneur dit, réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les ciels. Sur terre, méprisé, insulté, déclaré infâme, insulté, devenir infâme, la cause de moquerie. Et ensuite, le Seigneur dit, réjouissez-vous et tressaillez d'allégresse. Tressaillez d'allégresse. Tressaillez d'allégresse.
Ah,
ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand ils nous outragent et nous chassent de leur communauté, nous chassent et que nos noms sont comme infâmes, alors, il est décrit ici, notre joie doit être grande. Et nous devons, même avec cette joie, tressailler d'allégresse. Et ainsi, avec cette joie, nous avons la promesse que notre récompense sera grande dans le ciel. Abraham, tu m'as cru. Tu m'as fait confiance. Ta récompense sera très grande, très grande. Peuple de Dieu, semence d'Abraham, vous m'avez fait confiance. Vous avez cru ma parole. Vous avez supporté tout l'opprobre et l'outrage et l'ignominie avec tous ceux que le Seigneur a envoyés. Ça, c'est bien sûr votre récompense. Parce que vous avez reçu ce que Dieu a établi et envoyé, vous devez souffrir et porter avec eux l'opprobre. Mais parce que vous les avez reçus et que vous partagez leur opprobre, vous recevrez la même récompense que les prophètes ont reçue. Oui, ils n'auront pas besoin de plus. Cela me suffirait. En tout cas, moi, cela me suffirait si je reçois la récompense du prophète Ésaïe. Si cela déjà me suffit, ce sera quelque chose de très beau, n'est-ce pas? La récompense de frère Branham, elle me serait aussi bien favorable parce que tous les vrais serviteurs de Dieu sont passés dans ce monde avec outrage et ignominie et opprobre. Mais lisons encore ce verset 23, encore une fois. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. J'ai toujours dit que je n'ai pas besoin de récompense. Ma récompense devrait plutôt consister à ce que tous ceux qui croient, qui ont écouté le message divin dans ce temps avec moi, soient auprès du Seigneur. C'est ça ma récompense. Je n'ai pas besoin de plus de récompense que ça. Et soyez sincères. Quelle récompense Esaïe recevra? Quelle récompense tous les prophètes recevront? Quelle récompense Jean-Baptiste recevra? Quelle récompense ils recevront? La récompense, c'est le travail de cette souffrance de son âme, de notre Seigneur, de ce que tous les rachetés reçoivent la parole révélée et reçoivent les serviteurs de Dieu qui l'envoient. Et ensuite, nous sommes tous satisfaits. Alors, la récompense de ceux qui ont été envoyés et la récompense de ceux qui ont reçu les envoyés sera la même. Et avec Abraham, Isaac et Jacob, nous nous asseyrons à la table et nous prendrons part avec le Seigneur au souper. Dans Luc, le chapitre 10, nous avons aussi, n'est-ce pas, une parole qui va dans cette direction, dans Luc chapitre 10, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Ici, il est écrit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père. » Luc 10, verset 22. Et personne ne connaît qui est le Père et le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et maintenant arrive. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier. La première partie est adressée d'abord à la foule, que cela ait été écouté par des milliers et des milliers de personnes. Ensuite, le Seigneur adresse maintenant sa prédication à ses disciples d'une manière particulière et dit: heureux, donc bienheureux, les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu, et ne l'ont pas entendu. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que cela n'est pas aussi valable pour notre temps? Quelle bénédiction c'est pour nous d'avoir la grâce d'entendre ce que Dieu, avant même la fondation du monde, a déterminé, qui nous ça a introduit dans les profonds mystères de sa parole et de son dessein. Combien de générations sont passées? Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu ce que nous voyons, qui n'ont pas entendu ce que nous entendons. Nous sommes un peuple privilégié, un peuple qui a reçu la grâce de Dieu, vivant dans la dernière génération avant le retour du Christ, qui a le privilège de voir l'accomplissement des prophéties bibliques dans tous les différents domaines, et d'une manière particulière, l'insistance, l'importance est placée sur la parole de la promesse pour l'Église. Et ça aussi, nous avons eu à le dire plusieurs fois. Combien parle d'Israël? Combien parle de l'accomplissement des prophéties bibliques? Tout ce qui est écrit là, mais qui écrit sur la promesse, pour que nous ayons part à la promesse, à la nature divine, pour que nous ayons part à l'accomplissement de ce que Dieu a lié à la promesse. Ça ne suffit pas de parler de la promesse, il faut parler de ce qui nous permet de l'expérimenter. C'est-à-dire, il faut que nos cœurs reviennent, soient retournés à ce qui avait été enseigné et prêché et cru et pratiqué au commencement de l'Église, pour que, avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, les croyants soient dans l'état qui était avant la Pentecôte, pour que tout, maintenant, avant le retour de Christ, soit restitué et rétabli tel que c'était au commencement. C'est justement à cela que tous passent sans s'arrêter. C'est justement ça que tous ne considèrent pas. C'est peut-être raison que ici notre Seigneur s'adresse à ses disciples. Et les deux, c'est le même mot. Disciples ou écoliers. Nous sommes assis au pied du Seigneur et nous écoutons ses paroles, lui le maître et nous les frères. Et c'est par le Saint-Esprit que de la parole de Dieu nous sommes enseignés, instruits, pas au pied d'un Gamaliel, pas au pied d'un professeur dans une école biblique ou bien un séminaire, mais réellement au pied de notre Seigneur. Et nous pouvons ensuite appartenir ainsi à ceux desquels il est écrit que celui qui a des oreilles qu'il entende, qu'il écoute ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Dans l'Évangile de Jean, le chapitre 4, nous avons la parole très connue de notre Seigneur. Jean, chapitre 4, Ici, à partir du verset 31, serons sincères, même si ces paroles-là nous sont connues de tous, Dieu le Seigneur parle d'une manière nouvelle par sa parole avec nous et nous conduit toujours plus profondément dans sa parole. Ici, nous avons la relation avec la nourriture, avec la volonté de Dieu et avec l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Jean 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? C'est un entretien ici tout à fait naturel. Il s'agit de pain, il s'agit de faim naturelle, humaine. Et ensuite, notre Seigneur dit ici, au verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les prophètes dans l'Ancien Testament ont annoncé à l'avance ce qui allait arriver, ont annoncé, ont prédit la venue du Rédempteur. Et c'est ainsi que l'accomplissement est venu. Et ici, nous voyons notre Seigneur dans l'accomplissement des choses pour lesquelles il avait été envoyé, des choses pour lesquelles il vint. C'est-à-dire pour accomplir l'œuvre pour laquelle je fus envoyé. Ensuite, au verset 35, nous voulons encore lire ce verset, Jean chapitre 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Est-ce que vous remarquez, de manière tout à fait naturelle, notre Seigneur parle, et ensuite, subitement, les pensées surnaturelles suivent pour expliquer ce qu'il veut dire ici. Voici, je vous le dis, la deuxième partie du verset 35. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. 4 mois jusqu'à la moisson. Et ensuite, le Seigneur, ici, conduit dans le domaine spirituel directement, du domaine naturel, et il dit, regardez les champs, levez les yeux, qui déjà sont mûrs pour la moisson, blanchissent pour la moisson. Au verset 36, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Verset 37, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé le semeur selon Matthieu 13 à semer. La bonne semence, les enfants, les fils de Dieu, sont la bonne semence qui a apporté son fruit. Ce sont les fils de Dieu, les fils du royaume. Et c'est ainsi que le grain de blé, ensuite, tous les élus, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, qui suivent dans le grain. Et notre Seigneur dit ici, les champs blanchissent et commencez la moisson et récoltez pour que les deux se réjouissent. C'est-à-dire celui qui sème, qui a semé la bonne semence et celui qui moissonne, qui rassemble, qui récolte. Encore le verset 38. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Oui, nous n'avons rien fait pour cela. Soyez sincères. Qu'est-ce que nous avons pu apporter comme contribution à être devenus croyants? Avons-nous contribué à quelque chose? Du fait que nous sommes devenus croyants, comme la Bible dit, est-ce que tout n'est pas que grâce? Est-ce que tout n'est pas qu'un don, un cadeau gratuit que nous avons reçu du Seigneur? Dans la deuxième épître de Jean, et nous allons ensuite achever, conclure ce sujet et venir rapidement parler encore de ça ici, que Dieu aussi doit corriger ici dans certaines choses. Ici dans la deuxième épître de Jean, il est écrit à partir du verset 7, deuxième épître de Pierre, verset 7. Et ici nous avons encore une fois cette pensée de recevoir la pleine rémunération, la pleine récompense. La deuxième épître de Jean, à partir du verset 7. Car plusieurs séducteurs, en allemand, car plusieurs faux docteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Nous ne pouvons pas ici entrer dans les détails. Il y a les deux. Dans l'évangile, dans l'épître de Jean, d'abord, il y a celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair, est l'antichrist. Mais la deuxième chose, c'est celui qui ne déclare pas publiquement Jésus-Christ de la même manière reviendra en chair. Ici, il doit être écrit Jésus-Christ venant en chair. Celui qui ne déclare pas publiquement Jésus-Christ venant en chair. Pas est venu, mais venant en chair. C'est de la même manière un antichrist. Et ici, c'est une parole très importante. Même à l'intérieur du message, il y a des personnes qui simplement disent « Oui, le Seigneur est déjà venu. » Combien de fois je devrais encore en cet endroit encore insister et dire? Ma réponse a toujours été la même. Quand le Seigneur revient, moi je pars. Je ne suis plus sur terre. Quand le Seigneur reviendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés vivants en Christ, nous serons transformés. Un homme qui prétend que le Seigneur est déjà venu est ou alors pas tout à fait normal dans sa tête, ou bien alors il a complètement, entièrement, totalement perdu l'orientation. Car si dans la Bible il est écrit, dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, au verset 11, le même Jésus, le même qui a été pris du milieu de vous et qui est monté au ciel, reviendra de la même manière, telle que vous l'avez vu monter au ciel. Alors, ça c'est la parole de Dieu. Et c'est notre orientation par la grâce de Dieu. Quand le Seigneur en tant que fils de l'homme vient et s'assied sur le trône de sa gloire et que toutes les nations seront rassemblées devant lui, ça, c'est tout à fait une autre venue. Et quand il vient en tant qu'ange de l'Alliance, avec le livre ouvert dans les mains et descend, et place un pied sur la terre et sur la mer, et lève sa main droite, et jure auprès de celui qui est d'éternité en éternité, et dit que le temps ne sera plus, et qui restera encore un certain temps, qui est dit, ça c'est encore de nouveau tout à fait une autre venue. Nous, nous attendons le retour de Jésus-Christ en tant qu'époux, qui de la même manière reviendra, tel qu'il a été vu monter au ciel. Bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, de la même manière, que nous ne pouvons pas supporter et permettre que des faux docteurs soient en voyage, ou alors par exemple, ils représentent encore des, ils ont conservé encore des enseignements des dénominations, etc. Alors on doit dire que cela est valable pour tous ceux qui ont dévié des Écritures et qui méprisent les Écritures et font des citations de frère Branham, toutes sortes de doctrines et d'enseignements et qui arrivent à différents résultats de toutes sortes de multiples. Mais l'Église de Jésus-Christ a été déterminée à croire la parole de Dieu telle qu'elle est écrite et à ne rien ajouter. Cela nous ramène jusqu'à l'Apocalypse, le chapitre 22. Et ce verset, je voudrais le lire en relation encore avec cela, parce qu'il est écrit ici que le Seigneur reviendra et que sa rémunération sera avec lui. Sa rémunération sera avec lui. Apocalypse, chapitre 2, le verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc, Apocalypse 22, versets 12 et 13 maintenant. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ensuite, nous lisons au verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bien-aimés frères et sœurs, dans la dernière lettre circulaire, avec une grande douleur, mais j'ai dû mettre l'importance sur le fait que les révélations de Dieu ne sont pas comme ça quelque part dans une maison privée, données par une certaine sœur, mais dans l'église du Dieu vivant, c'est là qu'elles sont apportées. Tout ce qui vient de Dieu a lieu dans l'église, jamais dans une maison quelconque privée où des personnes se rassemblent et fabriquent ici des prédications et les déclarent comme révélation. Mais cela doit avoir lieu dans l'église. Et ici, nous lisons de nouveau cela, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'église, dans les églises. Je suis le rejeton, et verset 16, il relit Apocalypse 22, verset 16. Je suis la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. Ensuite, verset 17. Et l'époux et l'esprit et l'église disent. Et l'esprit et l'épouse disent. Viens. D'abord, le Seigneur s'adresse à l'église. Et cela, dans l'église. Et ensuite, l'épouse est appelée à sortir de l'église. Et c'est ainsi que l'église et l'épouse parlent le même langage, ont le même langage. Et ici, il est écrit, l'esprit et l'épouse disent. Et que ceux qui l'entendent disent viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ensuite, verset 18, nous avons reçu cela décrit. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Les paroles de la prophétie de ce livre. Regardons dans 2 Pierre, au premier chapitre. Ici, nous avons l'importance qui est mise sur la parole prophétique. Dans 2 Pierre, le premier chapitre, je lis à cause du temps seulement le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. En allemand, que vous possédez, à laquelle vous faites bien de prêter attention, que vous possédez. Nous n'avons pas seulement entendu, nous l'avons reçu. Nous la possédons, nous la portons dans notre cœur. Nous avons la parole prophétique, nous l'avons reçue. Elle est dans notre cœur et nous la portons. À laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Écoutez, s'il vous plaît, exactement ce qui suit dans les deux prochains versets.
Dabei müsst ihr euch vor allem darüber klar sein.
Au verset 20, sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Verset 20. Et en relation avec la prophétie des Écritures, de l'Écriture, la prophétie de l'Écriture nous est dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ce qui a été prononcé, c'est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est l'ordre divin pour l'Église. L'ordre est décrit ici, il est fait mention de ceux qui se détachent de l'Église, donc c'est ceux-là qui prétendent avoir un don. Mais ils séduisent le peuple et ils égarent. Que aujourd'hui, dans le monde entier, cela soit entendu. Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. C'est ainsi que cela est écrit dans l'épître adressée aux Corinthiens. C'est ainsi que cela est écrit dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 4. Ensuite, nous avons 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 14. Comment est-ce que les 9 dons de l'Esprit doivent être exercés dans l'Église? Pas quelque part de quelconque, chez une certaine tante ou bien une sœur spirituelle dans une certaine maison. Que cela soit comme eux. C'était autrefois à l'est et à l'ouest du pays. Non. Mais les dons de l'Esprit doivent être exercés dans l'Église. Et pas pour la destruction. Pas pour sa destruction. Mais pour son édification. Comme le frère Branham, d'une manière très particulière, a insisté sur les 6 des dons. Il a dit que dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur avait le spectoral, c'est-à-dire le Urim Tumim, ce pectoral qui portait sur sa poitrine, sur son cœur, avec les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et si quelqu'un avait un songe, si quelqu'un avait une révélation, si quelqu'un avait un enseignement, il devait venir dans le temple, dans l'église. Il n'avait pas le droit de rester à la maison. Il devait venir dans l'église, dans le temple, avec sa prédication, avec son enseignement. Il devait venir et se placer devant le spectoral. Et c'est ainsi que dans plusieurs endroits, il est appelé lumière et justice, Urim, Tumim. Quand la chose était authentique, était vraie, si le songe était vrai, venait de Dieu, alors il devait être raconté. Et ensuite, la lumière, par cette 12 pierres, d'une manière surnaturelle, priait pour confirmer que ce que cet homme ici, ce que cette femme a reçu comme songe est vrai, est juste, c'est vrai, ça vient de Dieu. Mais si la personne vint et qu'elle s'est placée devant l'Urim Tumim et que voilà, cela restait obscur. Il n'y avait pas de réponse. Dieu se taisait et répondait pas. Dieu peut que confirmer sa parole. Dieu peut que confirmer ce qui vient de lui. Et ensuite, c'est ainsi que cela se passait, que des personnes ont dû sortir avec honte, parce que ce qu'ils ont dit n'était pas vrai, n'était pas en accord avec Dieu et avec sa parole, mais avait été apporté de son propre chef, Ils avaient le droit de sortir, et en fait, ils n'avaient rien à dire dans l'église. Dans le prophète Ézéchiel, je vais que lire, deux ou trois versets. Nous avons, n'est-ce pas, l'énumération de ceux qui, dans l'église, n'avaient rien à faire, mais c'était ces prophétesses privées qui ensuite avaient leur jeu. Ézéchiel, chapitre 13, ici nous lisons seulement le verset 17 et 18, et ensuite le verset 22 et 23. Ézéchiel 13, verset 17. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur. Et prophétisent contre elles. Ézéchiel 13, verset 17. Et si aujourd'hui, je dois le faire, alors s'il vous plaît que personne me soupçonne d'avoir des propres motifs. Je ne suis pas ici en mon propre nom, je ne suis pas ici dans ma propre œuvre, mais il s'agit que le peuple de Dieu soit délivré de la bouche de ceux qui mentent et calomnient et ait la possibilité d'être ramené à Dieu et à sa parole et revenir à l'église du Dieu vivant, pour que la lumière et la justice trouvent sa confirmation, c'est-à-dire que la justice par la lumière soit confirmée. Ici, les filles du peuple qui ont prophétisé selon leur propre cœur, ils se sont pensées prophétesses. Il s'agissait que l'homme de Dieu prophétise contre elles. Ça, c'est un devoir très difficile. Au verset 18, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des cousinettes pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes afin de prendre en piège des âmes. Pensez-vous mettre à mort des âmes qui appartiennent au peuple et conserver vos propres âmes? Ici, le jugement est prononcé, n'est-ce pas? Tous ceux qui croient ce qu'elles prophétisent, sont leurs disciples, les suivent, mais ceux qui les résistent sont donc à l'extérieur d'elles, mais reçus par le Seigneur. Ici encore ces deux versets. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Verset 19, verset 23, maintenant. Vous n'aurez plus de vaines visions. Il y a des belles visions, il y a des imaginations qu'on a et qu'on désigne de visions. Et tout cela, c'est du mensonge. Ce n'est pas les choses qu'on a vues. Vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Le temps est arrivé et je ne demande pas de m'excuser, je le dis aujourd'hui librement et ouvertement en cet endroit que Dieu a déterminé à ce que sa parole ne soit pas seulement dans le pays et la ville, mais dans le monde entier, soit entendu. Et ça, je le dis seulement avec, réellement avec grande douleur. Je vous demande et jugez vous-même. Cela est un presque privé, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous pensez d'une prophétie dans laquelle il a été dit, c'est-à-dire une relation avec la fille de cette femme, parce qu'autrefois, tu ne t'es pas séparé de ton mari. Moi, je te sépare maintenant de lui et tu vivras. D'abord, c'est complètement contre les Écritures. La femme, la fille, est en train de mourir. Elle a le cancer. Elle a passé tous les témoins, les soins médicaux pour le cancer. Et c'est sa mère qui la divorce. Qui la divorce à sa place. 15 mois ont passé. Et avec son mari, elle n'a plus parlé. Son mari ne l'a plus vue et ne l'a plus entendue. Et elle mourut en décembre. Ça fait maintenant 10 ans d'ici. Elle est morte sans être réconciliée avec son mari parce que sa mère lui a donné cette prophétie de se séparer de son mari et de se laisser divorcer pour qu'elle soit guérie. Vous pouvez bien vous imaginer ce que cela a signifié pour moi et ce que cela signifie pour moi. Jusqu'à aujourd'hui encore, il y a les enfants et les petits-enfants et son mari et son fils, ils sont convaincus que tout cela était de Dieu, venait de Dieu. Et tous ceux qui n'ont pas cru sont coupables donc de la mort de leur mère et a dû quitter leurs enfants et a dû mourir parce que l'homme a refusé de se divorcer. Le divorce. Le mari a refusé. Et que cela doit être, tout cela doit être une révélation. Et tous les hommes le croient. Non, mais bien frères et sœurs, le temps est arrivé où toutes ces femmes-là qui sont devenues le désordre des foyers, des maisons, qui ont prophétisé de leur propre chef et de leur propre cœur, et par cela ont détruit que cela soit à l'est ou à l'ouest. Que tout soit informé. Que Dieu le Seigneur est seulement dans l'église. Et c'est seulement dans l'église qu'il parle, qu'il bénit, et que tous doivent se placer devant Dieu et sa parole dans l'église pour que la lumière et la justice et le jugement reflète comme témoignage que cela vient de Dieu ou pas. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui je ne veux rien encore dire de plus. Je lis simplement cela pour finir avec ce que nous avons entendu en insistant au commencement. Ta récompense sera très grande. Pourquoi est-ce que la récompense d'Abraham sera très grande? Parce qu'il a cru, parce qu'il a mis en pratique, il a suivi, il a obéi, il a fait ce que le Seigneur lui a ordonné. Il était dans la volonté de Dieu, dans tout ce qu'il faisait. Et même Jésus-Christ, dans Matthieu 1, verset 1, fils d'Abraham, a été appelé fils d'Abraham. Donc, nous voulons croire, comme l'a dit les Écritures, et tout le reste, qu'ils puissent examiner eux-mêmes. Mais ce qui est étrange, c'est que de telles personnes n'examinent pas, mais des soi-disant prophétesses se place sur Dieu et la parole de Dieu. Pour elle, la parole de Dieu n'a plus de, n'est plus valable. Mais c'est seulement ce que cette femme l'a dit qui est valable. Et ensuite, leur représentant principal vient de la Roumanie il n'y a pas longtemps et veut là-bas représenter la voix de Dieu, the voice of God. The voice of God, et ici distribuer tant de plein de choses. Non, bien mes frères et sœurs, le temps est arrivé. Comme il est dit ici, prophétise contre ces femmes-là. Elles restent à la maison et elles se jouent du théâtre, elles se trompent et trompent tous les autres. Et c'est seulement de la destruction qu'elle y a à tout cela, pour les différentes familles et pour tous ceux qui sont en relation avec ces choses. Mais celui qui dans l'église du Dieu vivant demeure, reste dans l'église, celui qui reste dans l'église, même si la correction est dure, mais il y aura toujours de l'espérance. Dieu ne juge pas seulement, Dieu ne nous dit pas seulement ce qui n'est pas correct, mais il nous montre aussi comment nous avons à nous soumettre devant lui. Et il nous montre aussi ce qui n'est pas en ordre, et il nous montre aussi comment le mettre en ordre. Nous devons rester dans l'église. Et ce qui est important, c'est qu'en tant qu'église, nous puissions porter devant le Seigneur toutes, nous devons porter dans notre cœur le peuple de Dieu, les requêtes, tout ce qui concerne le peuple de Dieu, et demander au Seigneur d'intervenir, même si cela était avec gêne et prière, que chacun se laisse conduire pour prier, pour que Dieu puisse d'une manière nouvelle nous tourner sa face, et que toute la malédiction, tout ce qui est arrivé, soit ôté, et que Dieu, d'une manière nouvelle, puisse bénir. Adressé à tous ceux qui veulent se laisser baptiser, sûrement que vous l'avez entendu, les Saintes Écritures disent, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de leurs péchés. Et aussi, Pierre n'a pas tenu une longue explication. Il n'a pas eu besoin d'apporter un long enseignement. Tous ceux qui croyaient, 3000 en tout, se sont laissés baptiser le même jour après la prédication et ont été ajoutés à l'Église. Que cela ait lieu par la grâce de Dieu, que tous ceux qui ne sont pas encore baptisés bibliquement et pour cette raison ne sont pas encore sous l'influence divine directe. Laissez-moi vous dire cela. Il s'agit de savoir sous quelle influence nous nous tenons. Nous devons nous placer sous l'influence divine de la parole de Dieu et recevoir, pour recevoir la parole de Dieu révélée et avoir la foi d'être apporté en accord avec la parole de Dieu. Et ainsi, accepter le baptême et se laisser baptiser bibliquement par une immersion unique, une fois, cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'enseignement biblique pour nous tous. Et je suis convaincu que tous ceux qui sont de Dieu, tous ceux qui sont de Dieu, prêteront l'oreille à la voix de Dieu et de tout leur cœur accompliront toute justice et se laisseront baptiser. Accompliront toute justice. S'il vous plaît, recevez cette parole d'introduction de Genèse chapitre 17 ou bien chapitre 15. C'était « Ta récompense sera très grande. Tu as cru, tu m'as fait confiance. » Ta récompense sera très grande. Genèse chapitre 15. Bien aimé frère, bien aimé sœur, ta récompense sera très grande. Notre récompense sera la même qu'ont eu les prophètes et les apôtres, tous ceux qui ont été envoyés par Dieu et tous ceux qui les ont reçus et qui ont cru.
la parole qu'ils ont reçue du Seigneur seront bénis et récompensés par le Seigneur. Ça, c'est en tout le salaire de la douleur de notre Seigneur sur la croix à Golgotha. Il a semé la semence et nous sommes entrés dans la moisson et nous sommes les prémices de la moisson. Et nous remercions Dieu de tout notre cœur pour cela, que il puisse vous montrer les différents contextes de ces paroles. Je le dis avec une tristesse intérieure. Cela ne me réussit pas d'apporter comme ça tout comme je voudrais le faire. Comme la dernière fois, j'ai eu à le dire, le porteur de la parole vieillit et est faible, mais la parole est toujours plus puissante et efficace. Donc ce n'est pas la voix à haute voix, la voix haute, mais c'est la parole en elle-même qui produit l'effet. Et c'est ce que je ressens dans mon cœur. Vous n'avez pas seulement reçu le message et le messager, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu. C'est elle qui a été scellée en vous par le Saint-Esprit. Et que Dieu le Seigneur puisse nous bénir tous et être avec nous tous. Amen. Nous nous levons et chantons, si ce n'est que les sœurs ont encore un cantique qui voudrait chanter comme une invitation pour que nous puissions encore faire retentir l'appel pour que tous ceux qui veulent consacrer leur vie au Seigneur. Et ça, je me suis aussi proposé de faire cela. Si par exemple une sœur vient qui est mariée et veut parler avec moi, alors il faut que je lui demande que son mari soit présent si elle veut un entretien. Et si le frère me demande de parler avec lui sans que sa femme soit présente, alors je dois dire, c'est pas possible. Le temps est passé pour toutes ces choses. Seulement si les deux sont présents, nous avons le droit d'avoir un entretien. Pas avec le mari seul ou bien la sœur seule. Seulement si les deux, c'est seulement comme ça que les deux pourront être aidés par le Seigneur. Nous devons en toute chose revenir au Seigneur, à la parole, à l'ordre divin, et nous nous soumettons tous sous la main puissante de Dieu. Bien-aimés sœurs, et chantez-nous un cantique, une invitation au Seigneur, et ensuite nous prierons.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt, wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht? Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, Christus, du mit in die Heimat willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen.
Amen.
Ja, die Berufung und Erwählung,
oui, l'appel
geht noch höher.
Et
wer da überwindet,
les élections vont plus haut que ça. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône. Tel que j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Bon, je voudrais demander que tous ceux qui veulent se laisser baptiser lèvent les mains. Je sais, le couple de la Pologne, venez donc devant. Ceux qui veulent se laisser baptiser, venez directement devant maintenant pour que nous puissions voir. Y aurait-il encore quelqu'un, venez? Y aurait-il encore quelqu'un qui veut se laisser baptiser? Saisissez l'occasion. Saisissez l'occasion. Et suivez le Seigneur dans la foi, dans l'obéissance de la foi. Il rendra toutes choses merveilleuses dans votre vie. Cela aura servi à quelque chose. Cela aura servi à quelque chose d'avoir suivi le Seigneur, de l'avoir cru, de l'avoir servi et dans la foi achever notre marche. Vous avez consacré votre vie au Seigneur. Toi, frère, tu as consacré ta vie au Seigneur.
Amen.
Tu as consacré ta vie au Seigneur. Toi, bien-aimée sœur, tu as consacré ta vie au Seigneur. Bien-aimée sœur, tu as consacré ta vie. Toi aussi, tu as consacré ta vie au Seigneur. Oui. Est-ce que vous parlez l'allemand ou bien français? Français. D'accord. Quel âge tu as, sœur? Nous baptisons seulement toujours à partir de 12 ans. À partir de 12 ans. Ça, elle a 13 ans. Oui, nous le faisons ici. Les enfants, le Seigneur les a bénis, mais les adultes ont été baptisés. Et la même chose, nous le faisons aussi en cet endroit. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi l'âge de 12 ans? Notre Seigneur a 12 ans dans le temple est mentionné où, avec les scribes et pharisiens, il a parlé de la parole de Dieu. Ça, c'est un âge. Sinon, auparavant, seulement parler de la circoncision, de la consécration, mais à 12 ans, et à 30 ans, il a commencé le ministère, c'est ainsi que cela est décrit, comme dans l'Ancien Testament, cela a été ordonné, que les serviteurs commençaient leur ministère, leur service avec 30 ans, à 30 ans. Et ça, cela a été aussi ainsi et accompli avec notre Seigneur. C'est ainsi que, conduit par le Saint-Esprit, depuis le commencement, nous avons fait les choses ainsi, que d'abord nous voulons que la jeunesse expérimente personnellement le Seigneur et reçoive Jésus-Christ comme sauveur personnel et ensuite se laisse baptiser. Maintenant, dans trois minutes, l'Internet sera Arrêtez donc, nous voulons maintenant prier. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur et de toute notre âme pour ta présence, pour ta parole, pour l'action de ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour ce que tu as fait pendant ce week-end parmi nous et dans le monde entier. Bien-aimé Seigneur, tu accordes la clarté par la vérité et tu te révèles, tu parles, tu sauves, tu guéris, tu bénis. Et tout cela, tu l'as fait pendant ce week-end dans les deux réunions. Et par la foi, nous pouvons t'honorer et toucher le bord de ton vêtement. Tu es le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Et nous te demandons, bien-aimé Seigneur, que ce ne soit pas seulement des guérisons, mais que des miracles de guérison aient lieu, des miracles de création par ta puissance aient lieu. Nous croyons ta parole et nous savons que la puissance sort de toi, vient de toi. Alors que le ressuscité, tu as dit, il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Et ça, nous le croyons. Toi, victorieux de Golgotha, tu as porté toutes choses sur la croix. Nos péchés sont pardonnés. Nos maladies sont guéries. Nous te remercions de tout mon cœur pour cela. Ainsi, nous te prions pour nos bien-aimés, frères et sœurs, qui veulent se laisser baptiser, qui vont se laisser baptiser. Sois avec eux. Bénis le frère Schmitt qui va baptiser. Bénis tous ceux qui vont se laisser baptiser. Et confirme ta parole en eux. Et qu'elle puisse aussi être confirmée. C'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c'est à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que Dieu le Seigneur appellera. Nous te remercions, bien-aimé Seigneur, de ce que les jours de la Bible sont de nouveau là. Nous te remercions encore une fois pour ta parole, pour la révélation par ton Saint-Esprit, pour l'introduction, pour la séparation, le blanchissement, la sanctification dans la vérité. Ta parole est la vérité. Bénis-nous tous et sois avec nous tous. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ.
Alléluia.
Alléluia.
Amen.
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 Amen.